francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 12 mars, Chérubin d'Orcil à Washington, accompagné de Morgane Guériac. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
À la une de cette édition, la commission internationale d'enquête de l'ONU en visite en République centrafricaine.
Enfin, le début d'une justice qui va être faite pour les centrafricains qui ont innocemment souffert. On devrait le faire depuis bien longtemps.
Washington condamne la répression des opposants au Burundi.
Plus de 70 jeunes logent à la prison centrale de Mimba depuis samedi dernier. Alexis Ndouidje, leader du MST, est recherché par un mandat d'arrêt.
Reportage à suivre de notre correspondant à Bujumbura. Frustration et confusion dans l'enquête sur la disparition étrange du vol 370 de Malaysia Airlines. Le président Obama reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche le premier ministre intérimaire de l'Ukraine. L'effondrement de deux immeubles fait au moins 2 morts et 18 blessés à New York, selon un bilan provisoire. Et ne manquez pas les sports et la chronique culturelle en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
La société civile centrafricaine se félicite de la présence de la Commission internationale d'enquête de l'ONU dans le pays. Les enquêteurs devront y rester 15 jours et travailleront en toute discrétion. Aujourd'hui à Bangui, les ministres de la Défense et de la Sécurité ont été interpellés par les conseillers nationaux sur l'insécurité grandissante en RCA. On fait le point avec Timothée Donangmaï.
À l'annonce de l'arrivée de la commission d'enquête de l'ONU à Bangui, la première réaction a été celle de la société civile centrafricaine. Un ouf de soulagement car il s'agit, selon elle, d'un début de justice pour tous les Centrafricains. Gervais Lakoso est coordonnateur du groupe de travail de la société civile centrafricaine.
Enfin, le début d'une justice qui va être faite pour les Centrafricains qui ont innocemment souffert. On devrait le faire depuis bien longtemps, ça n'a pas été fait, vaut mieux tard que jamais.
Pour la société civile, les enquêteurs devront tenir compte des exactions commises depuis le 12 décembre 2012, date du déclenchement du mouvement Séléka. La commission dirigée par le Camerounais Bernard Atcho Mouna dispose de 15 jours pour travailler en toute discrétion et devra rencontrer les autorités centrafricaines, les représentants d'ONG, les chefs des forces françaises et africaines. Bernard Atcho Mouna rappelle qu'il ne peut y avoir la réconciliation sans justice.
Les leaders politiques avec les mains ensanglées ne peuvent pas être partie d'un gouvernement de conciliation.
Alors que les enquêteurs de l'ONU entament leurs investigations, les ministres de la Défense et de la Sécurité publique étaient convoqués ce mercredi par le Parlement provisoire. Plus d'un mois après la mise en place du gouvernement, les Centrafricains notent que les exactions et crimes commis sur la population persistent.
Dans l'extrême nord-est du Mali,
un véhicule de l'opération militaire française a sauté sur un engin explosif hier. On compte un blessé parmi les soldats, indique l'AFP, citant des sources militaires. L'explosion se serait produite sur l'axe Tessalit-Aguelog, dans la région de Kidal, qui a été occupée en 2002-2013 par les rebelles Touareg et des islamistes liés à Al-Qaïda. Groupes armés qui ont été chassés suite à l'intervention française de l'opération Serval.
Naufrage au large du Nigeria, le bateau surchargé chargé de passagers s'est renversé près de Lagos, la plus grande ville du pays. L'AFP fait état de 13 morts, dont 2 enfants.
Les États-Unis ont fermement condamné la répression des manifestations de l'opposition burundaise, notamment celle de samedi dernier, parlant d'un gouvernement faisant usage d'une brutalité disproportionnée. Dans un communiqué diffusé par le département d'État, Washington demande à Bujumbura de respecter les droits constitutionnels de l'opposition. Et c'est dans ce contexte que le parquet général a inculpé ce mercredi Alexis Sindouidje, président du parti d'opposition MSD, et 71 de ses militants pour insurrection. Eric Manirakiza.
Tout commence samedi dernier très tôt le matin. Des centaines de jeunes venus de tous les quartiers de la capitale affluent dans la rue pour faire du sport de masse. Ces jeunes se heurtent à un dispositif policier placé sur tous les grands artères de la ville. Ils sont reçus par des grenades lacrymogènes et se dispersent, mais une vingtaine d'entre eux sont arrêtés sur le champ. Au même moment, d'autres jeunes se dirigent vers la permanence du MSD pour faire le bilan. Alexis Ndouidje, président de ce parti, vient à la rescousse. Mais la situation empire et s'envenime. Plusieurs policiers sont déployés sur le champ et ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes à l'intérieur de la permanence du mouvement pour la solidarité et la démocratie. Cette jeunesse en colère a failli lyncher deux policiers. Alexis Ndouidje empêche le lynchage, mais décide de garder ces deux policiers en échange des 40 jeunes de l'ADC Ikiwili arrêtés dans la matinée. Plus tard, il remettra les deux armes par la voix de Pierre Claver Mbonima, un défenseur des droits de l'homme. Alors que la tentative de médiation semblait porter fruit, la police tire à balles réelles. Plusieurs militants sont grièvement blessés. La Croix-Rouge du Burundi est refusée d'accès pour évacuer les victimes. Alexis Ndouidje, aujourd'hui sous le mandat d'arrêt pour insurrection, a réussi à passer dans les mailles du filet ce que certains policiers ont regretté en s'exclamant « Mission zéro ». Eric Manirakiza, Bujumbura, La Voix de l'Amérique.
Au Gabon, tension persistante à l'université Omar Bongo. Les étudiants observent un mouvement de grève depuis plusieurs jours. Auguste Yen, enseignant dans cette université et membre de la société civile, explique les motivations des étudiants gabonais.
Les motifs de la grève sont simples. Le retard dans le paiement des bourses d'études des étudiants. Toute l'université dysfonctionne en ce moment. Rien ne se fait ici depuis le début de la semaine. Les activités pédagogiques sont complètement suspendues. Je peux même dire que l'activité administrative elle-même est fortement affectée par ce mouvement de grève enclenché par les étudiants.
Quelle est la réponse de l'autorité?
Comme toujours, le pouvoir reste affolé, le pouvoir reste muet et ne propose rien de concret. La seule réponse que ce gouvernement donne toujours à tout mouvement social, c'est la répression sanglante, la privation de liberté, c'est l'interdiction de manifester, de revendiquer. Le gouvernement est incompétent chaque fois, incompétent à écouter les revendications et d'un autre côté, et par voie de conséquence, incompétent à proposer des réponses aux citoyens à ces revendications.
Auguste Ayen au micro de Jean-Roger Bion.
Soudan du Sud, la commission d'enquête de l'Union africaine a été investie aujourd'hui à Addis Abeba. Elle est dirigée par l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Jean-Roger Billon nous en dit plus.
Cette commission a pour mission d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et autres exactions commises pendant le conflit armé qui a éclaté au Soudan du Sud à la mi-décembre 2013. Elle doit ensuite présenter son rapport au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine dans 3 mois. La commission comprend 5 personnalités nommées il y a une semaine par la présidente de la commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. 4 parmi elles ont prêté serment ce mardi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Les membres de la commission d'enquête combinent des expertises dans des domaines tels que les droits de l'homme, la recherche et la politique. Le président de la commission d'enquête, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, a dit au nom des autres membres qu'ils prennent leur engagement au sérieux. « Le moment est venu pour nous, Africains, de pouvoir gérer les problèmes africains par nous-mêmes », a-t-il déclaré. Il a donné des assurances que la commission ne laissera aucune pierre non retournée et que les responsables de crimes ne doivent pas s'en sortir en toute impunité. La commission, qui souhaite travailler dans le sens d'une véritable réconciliation au Soudan du Sud, commence immédiatement son travail après la prestation de serment de ce mardi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Toujours pas de traces du Boeing 777 de Malaysia Airlines. Les recherches se poursuivent pour une 5e journée consécutive. L'avion a disparu des écrans radars sans appel de détresse samedi matin, environ 1 heure après avoir quitté Kuala Lumpur. Les conditions météorologiques semblaient bonnes. Le point avec Lionel Gaïma.
La mobilisation est pourtant importante. 42 navires et 39 avions venant de 12 pays sont à pied d'œuvre, soulignent les autorités malaisiennes. Et d'après le ministre malaisien de Transport, les recherches s'étendent désormais sur plus de 50 000 km². L'accent est mis sur la mer de Chine méridionale où l'avion a été localisé pour la dernière fois par les radars du contrôleur de l'air, 1 minute avant d'entrer dans l'espace aérien vietnamien, autre lieu de focalisation des recherches, le détroit de Malacca, en face de la péninsule malaisienne. La confusion règne toujours concernant la localisation de l'avion. Un responsable militaire a annoncé aujourd'hui qu'un avion a été repéré sur le radar samedi à 2h15, à 320 km au nord-ouest de l'île malaisienne de Penang, dans le détroit de Malacca. Mais on ne sait pas s'il s'agit du vol en question. L'armée malaisienne a par la suite pris des distances vis-à-vis de ces déclarations. Des experts pensent que le Boeing 777 sera retrouvé, mais cela pourrait prendre du temps. Le problème, c'est que plus le temps passe, plus les recherches se compliquent.
Le président Barack Obama reçoit dans quelques minutes à la Maison-Blanche le premier ministre intérimaire de l'Ukraine. Arseni Yatsenouk. Selon le site de la Maison Blanche, la rencontre était prévue pour 18h45. Monsieur Obama soulignera son grand soutien au peuple ukrainien et discutera avec Monsieur Yatsenouk de l'aide économique à son pays, indique-t-on de sources officielles. C'est la première rencontre entre les deux hommes. Michel Joseph.
Oui, c'est la première et elle intervient à un moment crucial pour l'Ukraine. La Crimée est en partie contrôlée par les Russes et un référendum sur le rattachement de cette région à la Russie doit se tenir dans 4 jours. Ce tête-à-tête souligne l'appui du gouvernement américain au nouveau gouvernement et au peuple ukrainien. Les États-Unis se sont engagés à fournir une aide d'$1 milliard à l'Ukraine. Pour rappel, 24 heures avant la visite d'Arseniy Yatsenyuk, la Chambre des représentants des États-Unis a condamné à une majorité écrasante la Russie pour violation de la souveraineté de l'Ukraine en Crimée. Elle demande, dans sa résolution, l'envoi d'observateurs internationaux dans la région. Au plan international, dans une déclaration publiée ce mercredi, les leaders du groupe des 7 nations les plus industrialisées ont demandé à la Russie de cesser tout effort visant à changer le statut de la Crimée en violation des lois en vigueur en Ukraine et du droit international. Le G7 appelle aussi à la cessation de toutes les activités soutenant le référendum du 16 mars. D'ailleurs, ces pays, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et les États-Unis ont averti la Russie qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats du référendum. Par ailleurs, ont-ils prévenu, l'annexion de la Crimée serait une violation de la Charte des Nations Unies et si Moscou s'engage dans cette voie, les membres du G7 prendraient des mesures de représailles séparément et collectivement. La Russie a formellement démenti la présence de ses troupes en Crimée, en dehors de sa base navale.
En Syrie, les militants islamistes soutenus par des éléments locaux ont tué au moins 25 personnes dans un village du nord près de la frontière turque. C'est ce qu'annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui précise que les combattants du groupe État islamique en Irak et au Levant ont tué 14 membres de groupes rebelles rivaux, 9 membres de tribus de la localité et 2 adolescents. Au moins 9 autres villageois sont portés disparus et pourraient avoir été tués également, apprend-on de même source.
Et ici, aux États-Unis, dans le quartier de Harlem, à New York, au moins 2 femmes, sont mortes ce matin et 18 autres blessées dans l'effondrement de 2 bâtiments suite à une explosion. On ignore pour l'instant les raisons de cette explosion. La police new-yorkaise a annoncé l'ouverture d'une enquête. Lors d'un point de presse, le maire de la ville, Bill de Blasio, a dit qu'un bon nombre de personnes sont portées disparues, mais rien ne confirme si elles étaient à l'intérieur des édifices effondrés. Les sapeurs-pompiers effectuent des recherches sous les débris, espérant trouver des rescapés.
En Turquie, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé aujourd'hui dans le centre d'Istanbul à l'occasion des funérailles d'un adolescent blessé l'été dernier dans une manifestation antigouvernementale. Berkin Elvan est mort hier. La police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des milliers de protestataires à Ankara et dans la ville côtière d'Izmir. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan fait face à une grande opposition à l'approche des municipales du 30 mars. Voilà pour le journal. Ici Chérubin Dorsil, en compagnie de Morgane Guériec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Et Morgane, nous ouvrons notre page magazine au Mali, où l'on attend la mise en place de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation.
Composée de 15 membres, elle aura un mandat de 3 ans. Que pensent les Bamakois de cette institution? Notre correspondant Kassim Traoré a posé la question à quelques résidents de la capitale malienne.
Moi, je m'appelle Abdoulaye Koulibaly, je suis de Bamako. À mon avis, la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, pour moi, ça n'a pas de sens, à mon avis. Parce que avant d'aujourd'hui, ils ont mis plusieurs structures qui avaient la même mission. Je pense que ce sont des commissions, ça c'est pour tromper les gens, et il n'y aura jamais de vérité dans cette situation. À mon avis, ça n'a pas de sens.
Safia Toucham, je pense que c'est une bonne chose. Le pays a besoin vraiment de la réconciliation et de la justice. Ça sera quelque chose de bien si on arrive à établir un moyen, les voies et moyens pour que la population puisse en bénéficier. Surtout qu'il y ait vraiment des débats, des tables rondes pour que tout un chacun puisse donner son avis et puis que la justice joue son rôle exactement comme ils le font.
Bon, moi, je suis Django Koulibaly. Je suis journaliste. Bon, je pense que la mise en place de cette commission dialogue, vérité et réconciliation est vraiment nécessaire aujourd'hui. Le Mali a connu une crise vraiment très grave. Il faut une commission de ces arts pour essayer de réconcilier les cœurs et les esprits des Maliens. C'est nécessaire et c'est important. Et puis, il faut que ça soit rapide. Il faut que l'État mette rapidement en place cette commission-là qui va tous s'atteler à réconcilier les cœurs, les cœurs des Maliens, et pour passer à autre chose. On a perdu trop de temps. Les gens sont frustrés. Il faut les réconcilier rapidement.
Je m'appelle Sidi Labib Mega. Je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques. Moi, je pense que c'est inutile, d'autant plus qu'ils ont mis tout un ministère pour sa main. Au final, ça n'a absolument rien donné. On ne fait que dire des choses et sans les appliquer. Pour moi, tout le monde connaît les fautifs de cette histoire, mais tout le monde ferme les yeux et se donne de fausses idées. Je pense que, bon, du côté de la réconciliation, je pense que c'est possible, mais d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents dans cette cause. Moi, je ne me dis pas que c'est une bonne idée. Pour moi, on devrait les prendre et les juger, les mettre en prison, voilà. Parce que quelqu'un qui a tué quelqu'un, il faut d'abord trouver sa culpabilité. Et une fois que cela est fait, moi, je pense que c'est la prison qu'il mérite.
Propos recueillis par Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
République démocratique du Congo, Nord Kivu, pendant que les autres ont pris l'option de s'exprimer avec leur Kalachnikov, nous avons choisi d'utiliser l'art pour revendiquer notre droit à la paix. Dixit Thierry Varueré, coordonnateur de Vigena Cocorico.
Pendant 21 jours, des jeunes artistes congolais, rwandais et burundais ont vécu ensemble à Goma, où ils ont produit des œuvres dans le cadre du programme Jeunes volontaires pour la paix et la reconstruction des pays des Grands Lacs, initié par la communauté économique des pays des Grands Lacs.
Les ateliers organisés par l'Union des jeunes artistes, dessinateurs et peintres ont pris fin ce mercredi au terme d'une expo-vente.
Nathalie Barge a joint Justin Kazareka, dessinateur congolais et directeur artistique de la manifestation.
On a appris beaucoup de ces jeunes gens et ils ont beaucoup appris de nous. C'était de l'amitié, c'est les relations qui se sont créées, c'est presque une famille qui s'est créée à la fin. L'objectif, c'était d'être ensemble. De gagner ensemble. Je me suis dit que longtemps on a toujours été divisé, on n'a jamais eu l'occasion d'être ou de travailler avec nos amis du Rwanda ou du Burundi. Et c'était une occasion de parler notre langage qui est celui de la paix. C'était une occasion de parler du même sujet, mais de l'autre côté du miroir. Parler des gens qui traversent la frontière, mais pas avec le bruit des armes. Ils arrivent et puis nous on a une expression, on dit des armes de construction massive. C'est-à-dire le temps de construire, le temps de se lever.
Est-ce que vous pouvez nous décrire certaines des œuvres qui ont été réalisées?
Il y a eu différents intervenants. Tout a tourné autour de la paix parce que c'est le contexte de la sous-région. J'ai d'abord travaillé avec une approche beaucoup plus décorative, avec des formes et des motifs africains pour représenter la diversité. Il y a aussi une symbolisation, notamment la paix, elle est symbolisée par la colombe. Et ils ont représenté cela par un moyen simple. C'est-à-dire, les outils de base n'étaient pas recherchés très loin. C'est-à-dire, c'était que de recycler, utiliser ce qui est juste à côté de toi. Alors, ils ont fait beaucoup plus de collages avec des graines, des graines de sorgho, des graines de riz, des graines de haricots. Et avec ça, on peut voir les pays, les drapeaux de la RDC, du Rwanda, du Burundi, ensemble. Et avec des mentions comme unité dans les langues du Rwanda, qui soient lues en français, c'est vraiment merveilleux.
Mais est-ce que vous avez aussi proposé des ateliers, disons, un petit peu plus ludiques, notamment à tout type de public?
Évidemment. Dans notre slogan, on a dit « vivre ensemble et gagner ensemble ». L'objectif même du chantier, c'était de mettre à la société un jeune capable de commencer une activité économique avec les moyens de bord. C'est-à-dire, les jeunes qui ont été formés ici, arrivés chez eux, ils vont faire la même chose. Ils vont développer cette approche, comment on peut commercialiser les produits, présenter ses œuvres dans la communauté ou à l'extérieur via les réseaux sociaux et YouTube, par exemple.
Justin Kassereka est dessinateur congolais à Goma.
Jacques Aristide, avec vous, Washington Forum, ce jeudi. Coup de projecteur sur la première année de pontificat du pape François. L'Afrique est-elle l'une de ses priorités? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Au Cameroun, une conférence régionale sur le financement des infrastructures en Afrique vient de se tenir à Yaoundé. Les experts de la Banque mondiale, du FMI et de la CEAC ont tablé sur l'allègement des contraintes liées au financement. Reportage dans la capitale camerounaise de Jules Lobo.
L'insuffisance d'infrastructures en Afrique est l'un des principaux obstacles à la croissance des États. Les praticiens et décideurs dans le domaine du financement des infrastructures l'ont reconnu cette semaine à Yaoundé avant de poser les jalons du développement. Un développement qui passe par ce financement des infrastructures dont les retombées sont considérables. Alamine Ousmane May, ministre camerounais des Finances.
Les études qui ont été réalisées dans ce domaine permettent de conclure que des points de croissance additionnels peuvent être engrangés à travers les investissements dans les infrastructures. Des emplois nouveaux, créateurs, générateurs de richesses, peuvent être davantage créés auprès donc des jeunes et des femmes si nous investissons dans les infrastructures. Certainement, pour le faire, on a besoin de ressources et les ressources sont importantes.
Selon la Banque mondiale, les défis dans l'accès aux infrastructures sont nombreux en Afrique subsaharienne. L'absence ou la vétusté du réseau routier, des télécommunications, la faible production d'électricité, le manque d'eau potable, entre autres, coûtent 2 points de croissance à l'Afrique. Et pour rattraper ce retard, les besoins de financement sont estimés à 93 milliards de dollars. Anne-Marie Gould-de-Wolf est directrice adjointe, département Afrique, FMI.
Financer les infrastructures dans une façon qui est consistante avec la soutenabilité de la dette. C'est pour ça qu'on a cette réunion ici qui permettra d'échanger des expériences des différents pays. Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour avoir cette augmentation de l'infrastructure tout en prenant compte de la nécessité d'avoir une soutenabilité de la dette.
La faiblesse du financement des infrastructures tient du fait qu'en Afrique, il existe de nombreux problèmes structurels, d'où quelques pistes de solutions explorées par les experts réunis à Yaoundé. Alamine Ousmane May.
Nous voulons voir dans quelle mesure des solutions, dans le sens du partenariat public-privé, dans le sens des financements commerciaux, mais en tenant compte du cadre de gestion, de la viabilité, de la soutenabilité de la dette, que tous ces instruments puissent être mis à la disposition des États. Nous avons constaté ces dernières années une activité fort intense dans la mobilisation des ressources en matière donc d'émissions obligataires par les États. Ce sont des alternatives qui doivent être donc présentées.
Yaoundé, Jules Lobo pour La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique sur votre portable. Les dernières informations, nos photos et vidéos, rendez-vous sur fr.voa.mobi. Tapez fr.voa.mobi et suivez la VOA partout dans le monde avec votre mobile.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Passons maintenant à l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Nous allons commencer en football ce soir, suite des matchs retour de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, à Paris, au Parc des Princes, le PSG reçoit les Allemands du Bayer Leverkusen. Il faudrait un tremblement de terre, Chérubin, pour que Paris ne passe pas en quart de finale, puisqu'à l'aller, ils ont fait un carton de 4-0. Mission presque impossible pour les Citizens, c'est comme ça qu'on appelle les supporters et les joueurs de Manchester City qui se déplacent à Barcelone. À l'aller, ils avaient perdu 2-0 sur leurs propres installations.
Alors, bienvenue Lionel Messi et Neymar. L'international camerounais Vincent Aboubakar souffre d'un problème de genou, c'est ça?
Oui, l'attaquant camerounais du FC Lorient est victime d'une inflammation au niveau d'un genou. Il est donc forfait pour le déplacement de son club à Sochaux samedi prochain lors de la 29e journée de la Ligue 1 en France. Vous savez, Vincent Aboubakar est l'auteur de l'unique but camerounais lors de ce fameux match des Lions Indomptables contre le Portugal il y a un peu plus d'une semaine. Un match qui s'était soldé, Chérubin, par 5-1. Il reprendra l'entraînement la semaine prochaine. Et puis, je vous laisse donner, Chérubin, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Alors, disons que Boston est tombé face à Indiana 98-83. Défaite également de Sacramento contre Détroit 99-89. San Antonio Spurs, mon équipe préférée, a battu les Chicago Bulls 104-96. Pas de chance pour Portland Trail Blazers face à Memphis Grizzlies, 109-99, c'était le score final. Et puis Milwaukee a baissé pavillon face à Minnesota, 112-101, dernier résultat. Victoire de Oklahoma City Thunder face à Houston Rockets, 106-98.
Merci. Voilà, et c'était tout pour le sport.
Voilà, merci Bagassi, les rôles sont renversés. Et nous accueillons l'un des hommes les plus talentueux de la Voix de l'Amérique, oh Morgane. Man.
Oui, on a Roger Muntou pour la page musicale.
Salut Morgane, alors comment ça va Morgane?
Ça va bien, merci.
Super. Morgane, écoute, Lady Gaga est la reine du n'importe quoi en matière de mode. Hein. Et si tu ne vas pas me croire, écoute Morgane, j'ai deux photos ici et malheureusement nos auditeurs ne peuvent pas voir ça. Tu passes à Morgane, il n'y a pas de problème. Mais écoute, alors qu'il fait très froid à New York, la chanteuse se balade quasiment nue, hein, comme si de rien n'était là.
Bon, bah, alors pour décrire quand même, ouais. Parce que sinon...
Oui, non, vas-y, décris.
Donc elle... Bon, elle a un collant, juste au bord, quelque chose qui couvre tout, une voilà. Combinaison mouvante.
Ouais, ouais. On abrège. Mais il fait froid, c'est ça mon problème.
On abrège.
Ouais, mais il fait froid. Mais écoutez, on écoute ça, ce morceau, j'adore quand même sa voix. On écoute Alejandro.
Voilà, Lady Gaga influencée par de grands noms de la musique pop, notamment Madonna.
Ah oui, Madonna, on voit bien comment elle est habillée. Mais écoute, à 11 ans, elle tente, n'est-ce pas, d'entrer à la Juilliard School, hein, qui est une très grande école de musique à New York, à Manhattan, mais rentre finalement au couvent du Sacré-Cœur, une école privée catholique. Ses premières ballades sont écrites lorsqu'elle a 13 ans et une de ses meilleures chansons, enfin les chansons qu'elle a toujours adoré écrire, c'est celle de Madonna, Holiday.
Voilà, Lady Gaga, Alejandro, merci Roger.
De rien Morgane.
Roger Muntou que vous suivez dans le RM Show tous les soirs à 20h TU.
Ici s'achève Le Monde aujourd'hui. Josèle Morissin a dirigé la mise en onde. Je ne peux pas le voir derrière la vitre, mais son casque me dit que c'est notre ami Santos à la console. Un grand merci à toute la rédaction. Ici Chérubin, Gabi Dorsil
et Morgane Guiriec.
On se retrouve dans une demi-heure.